Et bonsoir à tous, fidèles auditeurs de Méli Mélo. Quelques modifications au programme de ce jeudi 13. Donc on va recevoir par téléphone Laurent Goril, maire de Saint-Thierry, pour la soirée de la cité médiévale qui sera au micro de Carole. Nous recevrons Anne Pénenon, qui est la présidente de la confrérie de la Noix du Périgord de Nayac, qui est accompagnée de Florent Tourner, qui est le vice-président de l'association Nayac en fête à Nayac. Nous avons aussi rencontré au point presse Christian Gourbater, qui est le président et commissaire général du Tour du Limousin, qui va prendre son départ la semaine prochaine, 2026. Donc, et nous terminerons par Jean-Claude Lassens, président de l'association de sauvegarde du site Chalard-Pétbroulier. Voilà, donc on vous souhaite une bonne écoute de notre Méli-Mélo de ce jeudi 13 août.
PAC Méli-Mélo, votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h. Autour de Michel, Christine, Carole, Maxime ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Vous souhaitez communiquer sur votre actualité? Participez à l'émission en envoyant votre demande à melimelo@radiopac.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région. C'est dans Méli Mélo, une émission proposée par Gabi Martin, le mercredi dès 19h sur Radio PAC, Tube Info. En podcast sur radiopac.fr.
Bonsoir Gabi, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Carole.
Je suis moins dans les aigus en ce moment, vous avez remarqué?
C'est vrai, c'est vrai. C'est la chaleur qui fait ça.
Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça Gabi. Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux, rangez donc vos armures, dépoussiérez vos poulaines et préparez vos plus beaux atours. Le 14 août, Saint-Thierry-la-Perche va remonter le temps. Dès 18h, la place Athan va se transformer en joyeux repère de troubadours, d'artisans, de musiciens. On aurait dû mettre une petite musique moyenâgeuse derrière tout ça, Gabi.
C'est un peu tard.
De musiciens et de curieux venus festoyer sans avoir besoin de vider leur bourse, puisque bonne nouvelle pour nos gueux comme pour nos seigneurs, tout est gratuit. Ateliers, créations, enquêtes au musée, jeux, musique et bonnes victuailles. Où sont les poulardes? J'ai faim. Voilà de quoi passer une belle soirée en famille ou entre amis au cœur de la cité médiévale. Et pour vous conter tout cela, chers auditeurs, qui de mieux que le seigneur des lieux? Messire Laurent Goril, maire de Saint-Thierry-la-Perche. Bienvenue en notre humble royaume, messire Laurent Goril.
Merci, bonsoir.
Laurent, commençons par le commencement. Première édition de cette soirée de la cité médiévale. Comment est née l'idée de faire revivre la cité médiévale le temps d'une soirée?
Alors en fait, l'idée, c'est cette cité médiévale a été rénovée par mon prédécesseur, on va dire, depuis 2008, mise en valeur, avec plusieurs constructions, l'immeuble Porche, les remparts, la tour du Clos, le nouvel office de tourisme, la collégiale qui a été complètement rénovée. Et donc l'idée, c'était de mettre en valeur cet endroit de la ville, que je me suis rendu compte en fait que même les Limousins, les touristes, les Périgourdins ne connaissaient pas forcément. Mmh. Et pour la mettre en valeur, on voulait avoir un événement tous les ans au mois d'août, puisque nous on a le 14 juillet au lac d'Arfeuille avec le feu d'artifice qui est un gros événement. Et finalement, c'est le pendant, c'est dans un lieu plus emblématique de la ville, la cité médiévale, qu'on veut faire connaître en fait. Voilà.
Le 14 août dès 18h, la place Athan va donc devenir le cœur battant de Saint-Thierry. Quel est le programme exact, Laurent?
Alors en fait, c'est par rapport à votre présentation, au départ, on était effectivement parti sur une fête médiévale. Mmh. Et on s'est rendu compte, un, que c'était difficile à mettre en place, et puis finalement qu'il y en avait beaucoup. Bon, alors on est bien sur la cité médiévale, mais la fête ne sera pas totalement médiévale, puisque l'idée, c'est d'avoir les créateurs d'art avec des boutiques que nous avons rue des Arts qui exposent une partie de leur production, et puis toutes les boutiques en ville seront ouvertes, voilà, autour de la céramique, autour de différents arts, par exemple le bois, peut-être le cuir aussi, voilà. Et puis c'est surtout d'avoir tous les bâtiments aux alentours ouverts au public avec des visites gratuites. Je pense au musée, je pense surtout à la tour du Clos où on pourra monter en hauteur, admirer le panorama avec une visite guidée gratuite toute la soirée. Voilà. Mmh. Et avec, si vous voulez, le point d'orgue pour être avec des jeux aussi, avec des jeux, avec le salon de l'aquarelle où les enfants et les plus grands pourront faire des ateliers autour de l'aquarelle. Mais l'idée, si vous voulez, le temps fort, ça sera le concert à 20h30.
Finalement, c'est un peu une journée du patrimoine, mais avant l'heure.
C'est ça.
Alors,
avec quand même de la musique et avec de la restauration. parce que la deuxième idée, vous savez, on a pas mal d'animations sur Sainte-Thérèse, puisque oui. Par exemple, dans le marché festif, on ne voulait pas refaire un marché festif. Donc c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur tous les restaurants, on en a 7-8, qui sont autour de la collégiale, qui seront ouverts, et qui, bon, ils sont déjà habituellement ouverts, en fait, c'était de les mettre en valeur, c'est-à-dire d'inciter les gens qui vont venir au concert, mais avant, aller manger un petit bout au restaurant, au pluriel, qui se trouve à proximité de la collégiale. Mmh. Et on voulait faire marcher aussi les restaurateurs et les faire connaître. Voilà.
Alors, on a un mélange de plusieurs univers, puisque vous l'avez dit, aquarelle, il y aura aussi la présence des artisans, le musée, le jeu. Finalement, un mélange des genres, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, Laurent ?
Tout à fait. C'était le but. Et c'est à la fois d'animer, parce que de 18h à 20h30, animer le concert. Et comme vous l'avez très bien dit, les gens hésitent des fois à rentrer dans les musées, voilà, mmh. pour du coup, voilà. Et là, c'est vraiment aller vers les touristes, aller vers les gens qui vont se déplacer, les visiteurs, et les inciter à découvrir ces lieux. Voilà.
Le salon de l'aquarelle propose des ateliers. On va pouvoir s'initier à l'aquarelle ?
Oui, il va y avoir même la réalisation d'une fresque.
Ah, d'accord.
Voilà, s'initier à l'aquarelle, c'est dans la maison du patrimoine, où on a un jardin magnifique, ombragé, et il y aura une petite fresque, voilà, avec la possibilité de la réaliser. Alors, j'ai pas les détails techniques, je suis pas un spécialiste de l'aquarelle, mais c'est vrai qu'il y aura aussi la possibilité de faire des ateliers. Il y aura les deux.
Ah, donc on va pouvoir contribuer à réaliser cette fresque participative, finalement ?
Exactement.
C'est
exactement.
Excellent, tout ça, cher Laurent. Voilà. On a aussi une enquête grandeur nature. Est-ce que vous pouvez nous...
Voilà, alors je pense que l'enquête, elle va permettre aux gens de découvrir des énigmes et finalement de serpenter dans les ruelles de la cité médiévale, de la vieille ville, où il y aura des indices à trouver, j'en dis pas plus. Voilà, et ça permettra de visiter et de connaître quelques endroits insolites auxquels on prête pas toujours attention quand on se promène en ville. Voilà.
On aura la possibilité de s'amuser, notamment avec un jeu de société Circino pour les amateurs de jeux de société. Laurent, tout est gratuit sur cet événement ?
Voilà, en fait, on a un partenariat et j'ai écouté votre radio hier et je sais que la présidente de Jazz au Village, elle était sur votre antenne hier. Mmh. Et on a un partenariat et donc l'idée, c'était plutôt que de faire payer le concert de Jazz au Village tous les ans a lieu à Saint-Thérier, c'était de le mettre dehors, ouvert à tous, avec des reprises de standards de la chanson française, version jazz. Et moi, je trouvais ça plutôt bien d'offrir ce spectacle et finalement de donner un petit coup de pouce aussi à nos commerçants, voilà, en faisant venir du monde.
Tout à fait. Alors, comme vous l'avez dit, les restaurants de la place Sainte-Anne seront ouverts.
Et la vieille ville, rue du Marché, enfin, tout autour, il y a 7-8 restaurants, et même au-delà dans la ville d'ailleurs. Mais c'est vrai que le but, c'est de les mettre aussi en valeur et d'inciter les gens à venir un peu plus tôt, à faire un petit tour avec ces diverses activités, et après de manger un petit bout et de se rendre pour 20h30, 20h45, place Sainte-Anne pour le concert.
Pour le concert Place à la Musique avec Jazz au Village, un concert de swing autour du jazz et de reprises de chansons françaises, comme vous l'avez dit. On peut retrouver toutes ces informations sur le www.saint-irier.fr. C'est pas facile ça à dire, chère Gabi, chers auditeurs. Et également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Ville Saint-Irier. Et même sur Spotify, Laurent, puisque bienvenue dans les oreilles qui sifflent. Le tout premier podcast de la ville de Saint-Irier. C'est une excellente initiative, tout ça.
On a un service communication très, très dynamique.
Oui, en effet, parce que c'est vrai que c'est une autre façon de toucher la population via les podcasts. On peut réécouter partout via l'application Spotify. Et ensuite, cher Laurent, le prochain événement dans un futur très très proche sur Saint-Thierry-la-Perche ?
Eh bien, écoutez, le prochain événement, je ne peux pas vous en dire plus, mais on est toujours en réflexion pour faire quand même notre feu d'artifice qu'on n'a pas pu faire au 14 juillet et qui attire entre 5 et 10 000 personnes au lac d'Arpeuil. Et donc, il est possible que dans quelques jours, je puisse vous annoncer les bonnes nouvelles, mais on attend les évolutions météorologiques. Donc voilà, ça va être notre prochain événement. Et puis après, comme tous les ans, on a le forum des associations avec plus de 100 associations au début septembre. Mais ça, je crois qu'on reviendra vous voir parce qu'on est toujours bien reçus à Radio PAC.
Ah, c'est avec un grand plaisir. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Vous n'y échapperez pas non plus cette fois-ci, cher Laurent.
Voilà, merci.
Est-ce que vous êtes prêt pour ma petite question avec deux choix possibles ?
Ah, la dernière fois, c'était dur. Alors, allez-y.
C'est vrai ?
Ouais.
Oh, purée. Alors, attendez, parce que là, j'ai axé sur le Moyen-Âge, évidemment.
Mais c'est pas grave, on est dans la cité médiévale.
Mais c'est génial le Moyen-Âge. Laurent, si vous deviez attribuer une nouvelle spécialité à la ville de Saint-Thierry-la-Perche, évidemment, donc comme je l'ai dit, une spécialité moyenâgeuse, laquelle choisiriez-vous ? Réponse A, première cité française spécialisée dans l'élevage de dragons de compagnie. Il faudra juste prévoir de très très grandes cheminées. Ou alors réponse B, centre international d'apprentissage à la bonne prononciation des noms de villes et villages limousins. Parce qu'on entend souvent, on va à Saint-Thierry-Aix ou à Saint-Thierry, à Lubersac ou à Lubersac ?
Bah, c'est pas mal la deuxième.
Elle est pas mal la deuxième, hein.
Ouais. Bon, après c'est les usages. Vous savez que d'abord il y a plusieurs Saint-Thierry-Aix. Ça nous joue pas mal de tours d'ailleurs. Mm-hmm. Et ben, les gens de Bordeaux ils disent Saint-Thierry-Aix. Mais les locaux ont toujours dit Saint-Thierry.
Saint-Thierry.
Je crois que c'est pas que dans le Limousin. Vous savez. Il y a dans tous les départements, la prononciation se fait ou se fait pas. Mais c'est un bon exemple. Ça serait un bon centre qu'on pourrait faire.
Ce serait pas mal, ça, parce que l'étymologie de Saint-Thierry-la-Perche, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'histoire ?
En fait, vous savez que sur la Perche, il y a des hypothèses, et il y a plusieurs hypothèses. Et en plus, ça ne nous plaît pas trop, la Perche. C'est pas trop vendeur. mais si vous voulez, entre là, la Perche par rapport aux châtaignes, par rapport au relief, on n'a pas vraiment l'origine, mais vous savez qu'en fait, la législation oblige, comme il y a plusieurs Saint-Thierry, à ce qu'il y ait en fait une continuation dans le nom de Saint-Thierry, mais sinon c'est par rapport à Arédus qui a fondé plusieurs sites, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs Saint-Thierry sur le territoire large du Limousin.
Mm-hmm. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, Laurent ?
Oui, j'invite toutes celles et tous ceux qui demain soir veulent passer un bon moment. Le temps fort, ça sera quand même le concert. En plus, ils nous font l'honneur le matin de déambuler dans la foire le matin de 10h à midi en jouant du swing, du jazz de la Nouvelle-Orléans. Ça va être très festif. Voilà. Et c'est vrai que la foire du 14 août, c'est toujours un moment important où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, en fait, c'est une journée de fête autour de la musique et autour du patrimoine, comme vous l'avez très bien dit.
Et voilà. Du partage et de la bonne humeur aussi.
Voilà, on espère.
Évidemment.
On espère. Mais tous les soirs, à Saint-Thierry, il y a quelque chose. On essaye d'animer pour l'été, pour la période estivale. C'est le moment, je crois, où il y a du monde. Et je crois que les touristes, en particulier, les locaux, mais les touristes aussi, ils sont très... Ils apprécient en tout cas ces animations.
Nous avions avec nous Laurent Goril, maire de la municipalité, maire de Saint-Thierry-la-Perche. Il est venu nous avions par téléphone pour vous raconter un petit peu cette première édition de la soirée de la cité médiévale ce 14 août prochain avec de la bonne humeur, beaucoup d'animation, le patrimoine, le centre historique mis en valeur, fête semi-nocturne, aller consommer local, c'est extrêmement important pour les commerçants, pour la vie d'une forteresse, d'une cité, Laurent.
Tout à fait. C'est le but c'est gagner de la notoriété, s'inscrire dans la durée. C'est la première édition et on a 6 ans pour que cette soirée perdure et se développe.
Voilà. C'est demain soir, 14 août, dès 18h. Merci Laurent de nous avoir accordé ces quelques minutes.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Pâques Méli-Mélo, votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h. Autour de Michel, Christine, Carole, Maxime ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Vous souhaitez communiquer sur votre actualité? Participez à l'émission en envoyant votre demande à melimelo@radiopac.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région. C'est dans Méli-Mélo, une émission proposée par Gabi Martin, le mercredi dès 19h sur Radio Pac, Tube Info. En podcast sur radiopac.fr.
Bonsoir Didier.
Bonsoir Gabi.
Je te remercie d'avance parce que tu remplaces quelqu'un. C'était notre ami Adrien qui devait faire l'interview de la noix du Périgord et il n'est pas là. Donc tu vas... Je t'ai missionné mais tu vas y arriver. Je vais te donner un petit coup de main.
J'espère, j'espère en tout cas. Je vais faire la route secours, comme on dit.
Ouais, c'est ça, un petit peu ça. Merci.
Alors, on va parler un petit peu de la confrérie de la noix du Périgord de Nayac avec Anne Pédelon, qui est à côté de nous dans les studios. Tout d'abord, bonsoir Anne et merci d'être venue ici à Radio Pac.
Bonsoir, merci.
Et Edith, j'allais dire une ânerie, Florent Tournaire, vice-présidente de Nayac en fait.
Bonsoir.
Voilà. Donc, on commence par la noix.
Mais peut-être. Allez, peut-être ouais. Par Nayac en fait, par comme Nayac, il y a un programme en fait. Le samedi.
Allez, on va commencer.
On peut déjà situer un petit peu Nayac. Nayac, tout le monde connaît.
Oui, parce que moi je ne connais pas Nayac. Hein. Je vous
alors
dis tout
c'est
suite.
Simple, c'est la capitale mondiale de la noix.
Ah oui, donc c'est connu.
Ben voilà, tout à fait, exactement. on représente 3% de la production nationale, certaines années.
C'est déjà pas mal.
Voilà. En gros, si vous faites un triangle entre Limoges, Périgueux et Brive, on est au milieu.
Comme ça, c'est facile à se retrouver.
À peu près.
Alors, 15 et 16 août, donc ça arrive, il y a la fête de la noix, donc à Nayac. Et Florent va nous en parler un petit peu plus.
Oui, donc la fête s'étale sur deux jours. Donc le samedi à 14h, il y a le concours de pétanque. À 16h30, une marche comptée organisée par l'association Haute Fort Notre Patrimoine. Et à 19h30, un repas avec animation musicale à la salle des fêtes de Nayac. Et il reste encore de la place s'il y a des personnes intéressées. Le dimanche 16, donc, il y aura un vide-grenier avec en parallèle sur la journée un marché gourmand et artisanal. À 10h30, un spectacle équestre. Pardon.
Comme à Pompadour.
Voilà. Ça. Spectacle de rue, théâtral. Après la messe et les intronisations de la confrérie de la noix dont Anne va vous parler. Et l'après-midi, les Olympiades des jeunes. Donc ce sont des activités par équipe, avec notamment du tir à la corde, notamment. Et tout au long de l'après-midi, il y aura aussi de nouveau le spectacle équestre, des majorettes. Et pour clôturer la journée, une paella.
Et un feu d'artifice aussi.
Non, le feu d'artifice, il est annulé. Vu les conditions, il est
annulé. Oui, je me doute, il y en a plein qui sont annulés à cause de la sécheresse. Mais ouais, enfin bon. Donc ben finalement, vous allez être occupé ce week-end-là.
Oui, c'est un week-end riche, mais qui fait vivre Nayac, et voilà. Voilà, avec la promotion de la noix.
C'est bien ça, la promotion de la noix. Ah, mais ça, c'est quelque chose de typique de la Dordogne. Je pensais.
Oui, tout à fait. Ça fait partie de la trentaine de productions de la Dordogne. Et effectivement, donc, nous à Nayac, on fait toujours le chapitre le troisième dimanche d'août. Donc cette année, c'est le 20e chapitre. Donc à 9h, il y a le casse-croûte avec l'accueil des confréries. Donc cette année, nous avons à ce jour d'inscrits 27 confréries. Donc ça sera un chapitre quand même haut
assez
en
important.
Couleur. Oui, c'est un chapitre, c'est un chapitre moyen puisqu'il y en a des beaucoup plus gros, mais ça va être joli parce qu'il va y avoir une centaine de personnes qui vont défiler avec des habits complètement différents. On a des gens du Chabrol, de l'Aïe de Lautrec, Bouchon de Bordeaux, le Boudin Noir de Sainte-Fer, les culs d'ours en pays de Georges Sand. Alors je ne vous dis pas ce que c'est, je vous laisse deviner, il faut venir à Nayac pour savoir ce qu'est la confrérie du cul d'ours en pays de Georges Sand.
Il n'y a pas toi qui a quoi le cul d'ours en anglais.
Alors en fait c'était des gens, je ne vous laisse
ah,
je
vais
ne
pas le dire.
Faut pas le dire, vous viendrez et vous leur demanderez. Après il y a le docte collège, enfin des maîtres et des foie gras du Périgord. Il y a des confréries vineuses, des confréries gastronomiques, et il y a bien évidemment les confréries amies du Limousin, la pêche de Voutezac, et la pomme du Limousin, et la confrérie mycogastronomique gaillarde.
Oui, donc il y a pas mal de confréries. La Gabi connaît un peu toutes ces confréries là, parce qu'il
on
a l'habitude.
L'occasion de se rencontrer, c'est vrai, dans les chapitres. C'est vrai.
Et Gabi fait partie de la confrérie de la Noix du Périgord.
J'ai été intronisé, donc il faut que je continue à porter la bonne parole, c'est ça?
Exactement, tout à fait.
C'est ça la mission.
Haut et fort les couleurs de la Noix du Périgord.
Je croyais que tu allais porter le costume, parce qu'en principe, confréries,
on a chacun
costumes,
chacun notre.
Oui. Ah oui, parce que bon, il a l'habitude de tout ça, notre ami Gabi.
Tout à fait. Donc on a le casse-croûte, après on a le défilé dans le marché de Nayac. Après à 11h il y a la messe en plein air donc qui est organisée dans le parc de la famille Chassin, que l'on remercie de nous accueillir tous les ans. Cette messe sera animée par la chorale de la Bachellerie. Et après, à 12h15, il y aura des intronisations. Donc, on a une petite dizaine d'intronisations. Alors là, pareil, je ne vous dis pas qui on intronise pour vous laisser le suspense, sachant qu'on a des gens qui ont des mandats nationaux et on a des gens qui ont écrit des livres et qui font des conférences en France et à l'étranger, notamment aux États-Unis. Des gens qui sont élus, des représentants professionnels qui ont des mandats nationaux et locaux, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, et des confrères. Donc, n'hésitez pas à venir voir ces intronisations.
Et dites-moi, vous avez réservé pas mal de surprises. Hein.
Exactement,
puisque
c'est pour
vous
attirer.
Vous ne voulez rien dire, donc.
Non,
je sais pourquoi vous ne voulez rien dire, parce que vous voulez que les gens viennent découvrir.
Exactement,
c'est ça.
C'est ça, un peu de teasing, exactement.
D'accord, donc voilà pour la matinée qui est déjà bien remplie. Et alors l'après-midi, il y a encore pas mal de choses, je vois.
Oui, donc là, c'est Nayac en fait qui organise, donc il y a le spectacle équestre et les Olympiades.
D'accord, mais Nayac en fait, là, il y a quelqu'un à côté de moi qui peut en parler quand même.
Oui, bah comme j'ai déroulé tout à l'heure le programme. Donc voilà, l'après-midi, il y aura toujours le marché de producteurs qui va se continuer. Après les Olympiades, donc c'est la fille de Anne qui est en charge de trouver des équipes et d'organiser toutes les activités.
C'est comme un intervillage, non?
C'est la première.
Oui, c'est ça, ouais.
Oui.
Tire à la corde.
C'est la première fois.
Jeux.
La première édition.
Et c'est la première édition.
Parce que je vois quand même poser avec le doigt grand là. Sur le coup, je ne comprenais pas trop. Mais enfin, bon.
Première édition.
J'explique aux auditeurs comment ça se passe. Hein.
Donc, c'est ça. Donc, c'est la première édition. Après, il y aura de nouveau le spectacle équestre déambulatoire dans les rues de Nayac et les majorettes.
C'est les majorettes d'où ?
Lardin.
Du Lardin, d'accord.
Qu'on a l'Ardenne, c'est ça, si je me trompe.
Écoutez,
je connais un petit peu la Dordogne, mais enfin pas beaucoup. Je connais surtout Saint-Cyr-les-Champagnes, mais bon. Après, ça c'est pas bien dur, Saint-Cyr-les-Champagnes. Non, mais l'Ardenne c'est connu aussi.
Tout à fait.
Donc, Florent, il va avoir du travail ce week-end là.
Ouais, on a tout un groupe de bénévoles. Voilà.
Vous êtes combien de bénévoles?
On doit être une quinzaine là sur la manifestation.
Ah, mais c'est pas mal.
Ouais.
C'est bien, parce que les bénévoles, il faut en trouver.
C'est ça. Mais
c'est de plus en plus difficile.
Qui revient chaque année.
D'accord. Et ça se passe bien, il y a une bonne ambiance.
Très bonne.
Bon.
Ils reviennent donc, l'ambiance est bonne.
Bon, c'est pour ça que Florent est vice-président. Et qui c'est le président?
Notre président, c'est Jérôme Détrieux.
D'accord. Bon. Il n'a peut-être pas pu venir, mais bon.
C'est ça, ils sont en train d'organiser, de monter.
Oui, il y a des choses à monter. Il faut monter Barnum et tout le bazar.
Exactement.
D'accord. Bon, Anne qui est à côté de nous, elle n'a pas de stress, rien du tout. Elle, il n'y a pas de souci. C'est pas la première fois qu'elle fait.
Non, ça va.
Elle est assez relaxe, on va dire.
Je ne sais pas.
Non, mais bon. Donc, la noix. Alors, bon, on a la sécheresse en ce moment.
Oui.
Depuis déjà pas mal de temps.
Oui.
Est-ce qu'au niveau de la noix, comment ça se passe? Parce que. Il y a beaucoup de gens qui me disent que les fruits sont beaucoup plus petits que les autres années.
Oui, et puis là, les noix sont en train de tomber. Les noix sont en train de tomber. Après, c'est assez surprenant. Le noyer est quand même un arbre assez résilient parce que dans les terrains qui sont vraiment des terrains à noyer, même sans irrigation, les arbres sont encore verts. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion il n'y a pas longtemps, alors qu'on est quand même au 15 août, alors qu'on a quand même eu des périodes de canicule, on a la sécheresse. On a encore des arbres verts. Maintenant, les noix tombent. Et à un moment donné, je pense que le calibre et la quantité vont s'en ressentir. Voilà. Mais c'est vrai que c'est extrêmement inquiétant. Enfin, c'est inquiétant pour cette récolte et pour celle d'après en fonction de comment les arbres vont le vivre.
Oui, on peut l'irriguer, le noyer.
Ça, c'est, oui, tout à fait. Ah, oui. Il y a certaines variétés qui sont irriguées. Oui, oui. Oui,
c'est,
oui.
C'est pas gênant pour l'AOP, non,
non, non, non, non, non, non, non, non. Il y a certaines variétés qui le sont. Voilà, c'est en fonction des variétés. Il y en a qui sont plus demandeuses d'eau. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment les terrains qui sont vraiment qui tiennent l'eau et qui arrivent à résister. Voilà. Mais bon, là, on est quand même. Il faudrait que ça s'arrête. Voilà.
Et les noix, parce que moi je ne connais pas grand-chose dans les noix, il y a plusieurs variétés de noix.
Oui, tout à fait. Donc en fait, il y a plusieurs variétés. Donc il y a la Marbeau, la Grand Jean, la Franquette, la Corne, la Lara. Donc là, à Nayac, la spécificité, c'est qu'on avait une variété très ancienne, la Corne. Et après, effectivement, on a planté de nouvelles variétés, notamment la Lara, la Fernor. Voilà. Donc on a tout un panel de variétés.
Et cette confrérie de la noix, ça fait plusieurs années que vous l'organisez ?
Oui, tout à fait. Donc, on l'a créée en 2005. En fait, à la base, on avait créé la fête de la noix suite à la tempête de 99. Donc, cette tempête de 99, elle avait complètement ravagé le verger de tout le canton et de toute la Dordogne. Et donc, les nuciculteurs à Nayac avaient le choix où ben, on arrachait tout ou on replantait. Donc, ils ont fait le choix de replanter. Et donc, c'est vrai qu'en 99, il y a énormément de surfaces qui ont été plantées sur Nayac et sur le canton d'Hautefort. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a un tonnage important.
Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a cette fameuse tempête de 99 avait détruit beaucoup de choses.
Tout à fait. On avait même eu l'armée qui était venue nous aider à redresser les arbres. Donc effectivement, ce canton a fait le choix de planter, de replanter, de relever énormément, d'où la fête de la noix après et la confrérie en 2005.
D'accord. Bon, de toute façon, depuis, ça, c'est, les noix, je suppose, ça a bien dû repousser.
Alors, les noix ont repoussé, mais on a
lentement,
des crises entre les cours, ben, comme toutes les productions, comme la pomme, comme tout. Donc, on a des problèmes de les cours mondiaux ont chuté. Après, il y a des productions il y a des pays, notamment, qui produisent énormément. On a des problèmes d'importation. Donc, en fait, le cours mondial influe beaucoup sur le cours de la noix.
Et là, à l'heure où on parle, la noix, elle est à combien ?
Alors, impossible de vous le dire. Ah. On vous le dira au 15 novembre.
Ah ben, on va attendre, on reviendrait le 15 novembre alors, en ce moment. Comme ça, on le saura.
C'est ça, exactement.
Non, non, mais bon, je blague. Je croyais que vous saviez à peu près
c'est
les
ça.
Prix.
Non, non, c'est très... En fait, on le sait à la fin de la récolte. Ouais, et même quand c'est un système de coopérative, on le sait l'année d'après, puisqu'en fait, ils nous règlent quasiment un an après la récolte. Donc en fait, on sait le prix final, souvent 9 mois, voire un an après.
D'accord.
Le président Sylvain Floirat, donc il était à l'origine un petit peu de toutes ces plantations de noyers.
Oui, tout à fait. Donc ouais. Sylvain Floirat, c'est vrai qu'il était Sylvain Floirat, il était apprenti charron à Nayac. Donc il a vraiment commencé à Nayac. Après il est parti sur Paris. Il a quand même fini président. Il a eu Europe 1, Hachette, Breguet, Matra. Il avait acheté le domaine des Sandieras où il avait mis notamment beaucoup de pommes. Et c'est vrai qu'à Nayac il a planté des noyers dans sa propriété.
Le noyer, d'accord.
Voilà, tout à fait, dans sa propriété, oui. Mmh. Oui.
Disons, vous avez un président qui était quand même célèbre, finalement.
Oui, tout à fait. Il était il comptait à un moment, si je ne dis pas de bêtises, dans les 20e ou dans les 30e fortunes de France à l'époque.
Oui. Ah oui.
C'était un célèbre d'accord. ami de la famille Lagardère, qui venait à Nayac.
Oui. Très attaché à son village. Donc
exactement, très attaché. Oui, très attaché, exactement.
Donc il revient souvent.
Oh, il est décédé.
Ah, il est mort.
Il est décédé et ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, on n'a pas trop de...
Il n'y a personne qui a été intronisé de sa descendance, non ?
On avait cherché, mais on n'a jamais réussi à les avoir.
Ah, ouais. D'accord. Oui. Quand on a quelqu'un d'important comme ça, ça sert.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Et alors pour la fête de la noix à Nayac, parce que... Il ne voulait pas trop parler, mais il va bien falloir qu'il parle un petit peu. Hein, notre ami à côté.
Il est timide, Florent. Il fait son timide.
Oh, je pense pas qu'il soit si timide que ça. Il fait un peu exprès parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un à côté qui parle bien. Donc, hein,
tout à fait.
Il ne va pas me dire le contraire. Donc, vous, ça se présente bien à cette fête ?
Oui. Pour l'instant, de toute façon, la fête. Pardon. Il n'y a pas de contre-indication pour l'instant sur l'organisation. Ils annoncent un week-end moins chaud.
Un peu moins chaud, oui.
Un peu moins chaud. Donc, pour l'instant, tout le programme
est maintenu.
Pouvoir, être maintenu.
C'est pas la seule animation de l'année, non? Il y a d'autres.
Non, on fait d'autres repas. Ah, oui. On fait souvent des repas à l'automne.
Oui, évidemment, si on mange
après,
pas.
Après, à Noël, il y a le marché de Noël.
Marché de Noël aussi, d'accord. Ah.
Et après, au printemps, ça arrive aussi de faire un repas, d'accord, pour faire vivre le village.
Finalement, ce village, si je comprends bien, il vit par les repas.
Oui, on mange beaucoup.
Oui. Mais en Dordogne,
c'est pareil. C'est...
J'allais dire comme beaucoup de communes en Dordogne.
Oui, mais en Dordogne, c'est l'endroit du bon manger, on va dire.
Oui, puis les confréries, c'est souvent axé sur la nourriture. C'est...
Oui, il connaît Gabi, les confréries.
C'est gourmand, les...
Non, mais bon, c'est bien d'organiser les choses. Ça permet de faire vivre le village et... finalement, c'est une bonne chose.
Et puis, on a un fort soutien de la municipalité qui soutient les fêtes. On a une municipalité qui est très, très investie, qui nous aide beaucoup. Florent était conseiller, donc après, il a déménagé. Mais voilà, on a une municipalité très investie sur les fêtes, quoi, sur la fête.
Il n'y a pas eu beaucoup de changements avec cette... Ces nouvelles élections, il n'y a pas eu beaucoup de changements. C'est toujours monsieur le maire.
Il y a eu trois nouveaux conseillers qui sont arrivés. D'accord. Et qui sont investis dans la fête.
D'accord. Oui, qui participent tout à fait. Bien à la fête.
C'est une commune de combien d'habitants?
280, je dirais, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est en dessous des 300. Voilà.
C'est pas
dernier
mal.
Recensement, je dirais, sans dire
vous
de bêtises.
On est rattaché à la communauté de.
On est rattaché à la communauté de communes Terrasson-Tenon au Périgord Noir.
D'accord. Et oui, c'est déjà le Périgord Noir. Et oui, le Périgord Vert, donc oui, voilà. Périgord Noir.
Qui est en fait le regroupement des anciens cantons, Terrasson, Tenon, Hautefort.
Elle connaît son sujet par cœur. Hein. C'est bien pour ça qu'elle est venue à la radio, d'ailleurs.
C'est ça.
Non, mais bon, et Florent doit se dire, moi j'ai de la chance de l'avoir à côté de moi, parce que ça lui permet. Ça
je
ne
sors jamais sans elle.
Ah bon? Ah bon, mais ça va alors. Bon, c'est bien. Bon, on va apprendre des choses, mais bon. Florent, il sait bien se sortir des pièges. Hein.
C'est il ça, est malin gros. Comme garçon. Hein. Il est malin.
Il est bien. Hein. Hein. Non, c'est, moi, je dis ça en plaisantant. Il faut dire les choses comme elles sont. N'est-ce pas?
Ça.
Bon. Je pense qu'on a fait le tour ou vous avez d'autres choses à rajouter?
Eh bien, non, je pense qu'on a fait
le tour. Il faudra revenir quand même parce qu'il y a d'autres fêtes qui sont annoncées. Donc, il faudra revenir nous voir.
Eh bien, pas de souci.
C'est pas trop loin.
Non, c'est très bien. C'est très
bon,
bien.
On n'a pas le train qui vient, mais enfin, bon, en voiture.
Déjà, on a pris l'habitude de se voir une fois par an.
C'est très bien,
une fois
par an.
Mal.
Voilà, c'est ça,
oui,
ça nous permet.
C'est bien.
Puis maintenant, Florent va être rodé, donc ça va être nickel.
Oui, oui, on le sent. Il était un peu stressé au départ, mais là.
Non, mais c'est bon, là, Florent, ça se passe bien.
Il n'a plus envie de repartir, même.
C'est ça. Ah, il adore Pompadour, ouais, c'est ça.
Et Malik, qui voulait devenir animateur dans le Méli-Mélo, alors.
Yeah, on cherche, on recrute.
Plaisir.
On recrute. Bon, sinon, entre parenthèses, c'est bon, on a fini de dire ce qu'il y avait à dire sur Nayak et tout.
Bon.
Alors, en espérant que le beau temps, mais peut-être un peu moins chaud, soit de la partie.
Et ça puis, serait super.
Qu'il y ait quand même beaucoup de monde.
Ça serait super.
C'est surtout la messe en plein air, donc il ne faut pas que...
Ouais, tout à fait. La messe est très bien. Et puis, toutes les animations sont très bien. Voilà.
D'accord. Bon, on n'a rien d'autre à rajouter.
On va leur donner...
Rendez-vous
l'année prochaine et leur souhaiter un bon retour.
Avec grand plaisir. Ben, merci Périgord Noir.
Dans votre Périgord Noir, oui, comme dit Gabi.
Ça marche. Merci.
Merci beaucoup.
Allez, au revoir. Merci.
Mélo, votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h. Autour de Michel, Christine, Carole, Maxime ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Vous souhaitez communiquer sur votre actualité? Participez à l'émission en envoyant votre demande à melimelo@radiopac.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région. C'est dans Méli-Mélo, une émission proposée par Gabi Martin, le mercredi dès 19h sur Radio PAC, Tube Info. En podcast sur radiopac.fr.
Donc avec nous, Christian Combattère, le président du Tour de Limousin. Ce petit point presse de ce matin. Alors on va peut-être parler un petit peu des futurs engagés qui sont prévus. Je crois qu'il y en a, il y a plus de 100 coureurs qui participeront au 59e Tour de Limousin.
Oui, bien écoute, t'étais pas loin du chiffre, mais c'est 140 exactement, parce qu'il y a 20 équipes de 7. Donc voilà. Tu vois, c'est pas mal. Hein.
J'étais pas loin, effectivement.
Voilà, alors bon, il faut savoir que dans ces 20 équipes, il y a les principales équipes françaises, bien sûr, mais il y a aussi des équipes étrangères. Il y a une vingtaine de coureurs qui sortent du Tour de France, qui seront présents. Donc voilà un petit peu le plateau de cette année.
Donc il y a quand même une belle affiche, si je comprends bien.
Ah ben oui, bien sûr. Ben nous, déjà 140 coureurs. Il y avait un petit moment qu'on n'avait pas vu 140 coureurs sur la ligne de départ au départ sur la première étape. Là, il y a eu deux équipes supplémentaires qui ont souhaité venir. D'habitude, on prend 18 équipes, c'est déjà pas mal. Il y a eu deux équipes supplémentaires qui ont voulu venir, donc nous les avons acceptées. Donc ce qui fait que ça va être un très très joli peloton sur la ligne de départ à Vérac.
C'est, je crois, une des premières fois où Vérac va accueillir le départ du Tour de Limousin aussi.
Exact, c'est la première fois que nous partons de Vérac. Donc Vérac fait partie de Limoges Métropole et comme la tradition le veut, aujourd'hui c'est un tour 9h où toutes les communes de Limoges Métropole prennent le départ tous les ans, une par une, derrière les autres. Donc ça c'est Limoges Métropole qui choisit laquelle sera la candidate. Et donc cette année en l'occurrence, c'est Vérac.
Alors comme d'habitude... Vous allez faire le tour des départements, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne. Et la première étape va amener les coureurs de Vérac à Dun-Palestel.
Voilà, alors là aussi c'est une tradition. On va toujours en Creuse le premier jour, la première étape. Donc cette année, c'est Dun-Palestel qui a été retenu. En plus, Dun-Palestel, c'est je ne vais pas dire la capitale du vélo creusoise, mais presque, puisque on sort du célèbre critérium là, il y a quelques jours de ça. Là-bas, les élus sont très motivés pour recevoir le Tour du Limousin. Donc, c'est un énorme plaisir d'aller à Dun-Palestel et de faire plaisir aux Creusois et aux Dunois.
Je pense que cette première étape va mettre les coureurs en forme parce qu'elle est quand même pas si facile que ça.
Eh bien, oui, tu as raison. Quand on part de Limoges, tu as l'impression que c'est facile. Quand on part de Vérac, mais on traverse déjà les monts de Blon d'entrée. Le haut plateau marchois est plutôt facile, mais alors dès qu'ils vont rentrer en Creuse, du côté de Crozant notamment, du côté de Fraisselines, du côté de Nouzerolles, la Selle Dunoise, le Bourdan, c'est extrêmement difficile. Et pour finir à Naya, puisqu'il y a même un sommet des meilleurs grimpeurs qui se trouve à 6-7 km de l'arrivée. Donc voilà, il est difficile aujourd'hui de dire comment ça va arriver. Bon, je pense quand même, malgré tout, parce que les 5 derniers kilomètres, c'est une grande ligne droite qui nous amène à Dun-Palestel. Malgré tout, je pense qu'on aura droit à un sprint. Oui.
La Creuse aime bien recevoir le Tour du Limousin et le cyclisme en général, puisque la Creuse, on dit en Creuse, vacances heureuses, mais les cyclistes, ils disent peut-être pas pareil. Hein.
Oui, c'est exact. Et alors, bien sûr que c'est un pays du vélo. On sait que Raymond Pouillidor est quand même creusois d'origine, même s'il habitait à Saint-Léonard ensuite... dans la suite de sa vie, mais il est né en Creuse à Masbaraud-Mérignat, donc on était au cœur de la Creuse, donc franchement, et puis bon, il y a eu d'autres coureurs professionnels qui sont creusois, je pense notamment à Marc Durand qui a fait plusieurs fois le Tour de France. Donc non, la Creuse est un pays du vélo, et en plus le paysage, la géographie du département s'y prête pour faire du vélo. Rappelons-nous quand nous sommes arrivés notamment au sommet du Maupuy. C'est des sommets mythiques en Creuse. Donc oui, la Creuse est un département de vélo.
Alors, la deuxième étape, on va aller en Dordogne. C'est des habitués aussi de recevoir le Tour du Limousin. Une étape qui va partir de Salignac et Vigues pour La Noaille. Donc une étape de 184 km. Là, ça va être costaud aussi.
Oui, alors là, par contre, tout le monde dit l'étape reine, c'est la Corrèze. C'est vrai. Mais la Dordogne, Même si le départ est plutôt facile, puisque les, on va dire que les 50 premiers kilomètres sont plutôt plats ou mal plats, mais enfin bon, ça va. Par contre, le final, nous avons pas moins de 6 meilleurs grimpeurs dans cette étape, et dont 5 dans les 50 derniers kilomètres. Donc, et quand on connaît la vallée de l'Auvézère, pour finir, c'est terrible. C'est terrible. Là, il n'y aura pas de sprint à la noaille. Ou si c'est un sprint, ça sera un petit comité. Donc voilà, c'est une étape extrêmement difficile. On n'est pas loin des 3000 mètres de dénivelé, donc c'est déjà énorme. Les routes sont étroites dans le final. Ça va être compliqué pour faire une arrivée au sprint. Les sprinteurs auront du mal à s'extraire, du moins, de ce jour-là.
Finalement, le Tour du Limousin, ce n'est pas fait pour des sprinteurs. Hein. C'est souvent fait pour les grimpeurs.
Alors, attendez, on n'a pas fait encore les quatre étapes, on va voir.
On va voir la suite. On va parler de la troisième d'ailleurs. La troisième étape, donc, elle est en Corrèze, si je me trompe. Elle va amener les coureurs de La Mazière Basse vers Saint-Augustin. Non.
On va aller de Saint-Privat à Égletons, chef.
Saint-Privat à Égletons, voilà.
Donc Saint-Privat, c'est la Xaintrie. C'est la première fois également que nous partons de Saint-Privat. La course y avait passé à l'époque, mais sans s'arrêter. Donc là, c'est la première fois que cette étape va partir de Saint-Privat en Xaintrie, puisque la région s'appelle la Xaintrie. C'est une région magnifique. On est proche du Cantal. On est proche de la vallée des barrages. Et effectivement, c'est l'étape reine, puisqu'on est, on est aux 3000 mètres de dénivelé. Et puis, il y a 6 meilleurs grimpeurs, mais on aurait pu en mettre 15 si on avait voulu. On n'en a pas mis 15. Vous savez pourquoi ? Nous n'avons pas assez de potence pour installer tous les grimpeurs. Sinon,
c'est une anecdote, ça. Hein.
Voilà, c'est une anecdote, mais c'est incroyable. Non, on a relevé, bien sûr, les plus jolis, mais il y en a d'entrée. Il y a une côte de première catégorie qui serait un véritable petit col de moyenne montagne. Qui est dans la vallée de la Dordogne, dans les gorges de la Dordogne. Donc d'entrée, les coureurs vont souffrir, et ils vont souffrir tout le long du parcours. Effectivement, quand on approche d'Aigleton, quand on passe dans les Monédières, bon, on va parler du Sucomé, évidemment, il est célèbre parce que le Tour de France y est passé, mais n'oublions pas que c'est le Tour du Limousin qu'il a découvert en 2011. Voilà, et ça, faut le savoir, et nous y sommes passés, c'est la troisième fois qu'on va y passer. Et je peux même te dire que la dernière fois qu'on y est passé, c'était en 2021, c'est Thibaut Pinot qui était passé en tête. Donc tu vois, c'est une belle référence. Donc on va traverser les Monédières, donc le fameux Sucomé, mais on va terminer aussi par la côte de Saint-Hyriel-des-Jalas, qui a quelques encablures de l'arrivée. Et le final dans l'Aigleton est compliqué, difficile, technique. Là aussi, le vainqueur d'Aigleton, ça sera forcément un futur grand champion.
Mais il faut espérer, puis le Sucomé, ceux qui avaient participé au Boulder des Monédières à l'époque, ils connaissaient le Sucomé.
Eh bien, je vais te décevoir, mais il ne passait pas par le Sucomé. Parce qu'il passait par le col des Géants à l'époque.
Oui, le col des Géants.
Voilà, et c'est pas le même du tout. Le col des Géants était beaucoup plus roulant, beaucoup plus facile. Mais c'était, à répétition, c'était quand même un circuit très difficile, les Monédières.
Alors voilà pour cette étape corrézienne qui va certainement égrener beaucoup de monde. Et la quatrième étape, je pense que les coureurs, du moins les sprinteurs, préféreront peut-être Nantes à Limoges. Donc ça sera peut-être un petit peu plus plat.
Eh bien, effectivement, Nantes à Limoges... Ça va être une étape difficile quand même, parce que même si on croit aux sprinters, effectivement, tu as raison, mais on va traverser les monts d'Ambazac à deux reprises, c'est pas facile, notamment le petit bois des échelles. Mais bon, là, c'est dans le milieu de la course, donc effectivement, le peloton peut revenir sur les échappées, il y aura certainement des échappées à ce moment-là de la course. Le peloton va se diriger vers le circuit final de Limoges, mais la différence, c'est que nous n'arrivons plus Bouvelard-Beaublanc, puisque le boulevard Beaublanc est en travaux, voilà, et pour plusieurs années apparemment. Donc nous allons arriver avenue de Saint-Gens, qui est une très très belle arrivée. C'est un, on voit les spectateurs vont être comblés parce qu'on voit les coureurs arriver d'assez loin, mais c'est en montée et le dernier kilomètre est en montée et c'est pas facile. Alors je pense qu'il va y avoir un sprint, mais le sprint risque d'être très étiré. Ça sera plutôt un sprinter puncher qui risque de l'emporter. C'est ça, la nouveauté cette année, c'est l'arrivée de Beaublanc, c'est différent des autres années.
Donc voilà en ce qui concerne ces étapes. Bon, en ce qui concerne le nombre de coureurs, on l'a dit, il y en a déjà pas mal d'inscrits, et il y en a beaucoup qui ont fait le Tour de France également. Parmi ceux qui ont fait le Tour de France, qu'est-ce qu'on peut retenir comme nom ?
Ben, moi j'ai un favori, bon je ne les ai pas tous en tête, mais j'ai un favori, parce que je vais te dire pourquoi je mets ce favori-là, parce qu'il a déjà gagné le Tour du Limousin en 2022. Il a fait un très beau Tour de France. Il s'appelle Alex Aramburu. C'est un Espagnol. Il est dans une équipe française. Il est chez Cofidis. Mais je pense que lui, il le sait qu'il a gagné en 2022. Il sort du Tour de France. Il a la forme. Il a une belle équipe autour de lui. Je pense que j'en fais mon favori dans tous les cas, moi, cette année.
Finalement, je suppose que vous êtes quand même content de la participation de tous ces coureurs, parce qu'il faut déjà organiser le Tour du Limousin. Il faut avoir des sponsors aussi, ça c'est le principal.
Bah, bien sûr, c'est pas gratuit. Alors c'est gratuit pour le public évidemment, mais c'est un coût. Il faut payer bien sûr les équipes, il faut payer l'hébergement, il faut payer l'UCI, il faut payer il y a énormément de choses à payer. Donc effectivement, il faut des rentrées d'argent et on en remercie énormément. Alors il y a les institutions évidemment, les villes départ, les villes d'arrivée, la région, les départements, les communautés de communes qui sont derrière nous, heureusement. Mais n'oublions pas nos partenaires, nos partenariats qui, malgré les difficultés aujourd'hui que l'on connaît dans le monde du commerce, souffrent. Eh bien, malgré ça, ils sont fidèles, ils sont toujours avec nous et nous en sommes très, très fiers. Donc, merci à eux. Effectivement, tu as raison de le souligner. C'est très important qu'ils soient là.
Oui, parce que comme le disait l'ancien maire, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, maire de Payzac, il avait dit à l'époque au président du Tour du Limousin, il a dit, finalement, avec vous, il vaut mieux faire un départ qu'une arrivée, parce que l'arrivée, ça coûte plus cher.
Alors, mais oui, mais il avait raison. Mais bon, l'arrivée, c'est aussi plus de structure, c'est aussi la télévision, ça coûte plus cher, une arrivée. Mais un départ, j'adore, parce que le public a le temps d'aller voir les coureurs le matin. Ils sont tous présentés un par un au podium. Qu'à l'arrivée, non, c'est différent. À part le protocole, à part les vainqueurs, après, les coureurs s'en vont un petit peu plus vite, mais le départ, c'est magnifique. Moi, j'adore le départ. Il y a une ambiance extraordinaire au départ.
Oui, c'est vrai. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez... D'autres choses à dire, Président? Ah oui, comme ça, vous allez finir l'interview.
Eh bien, écoutez, dans tous les cas, je remercie la presse et les médias d'être présents à cette conférence de presse. Également, on a besoin de vous pour relayer, effectivement, les exploits des sportifs. Donc, un grand merci à vous tous et je vous souhaite un bon Tour du Limousin la semaine prochaine.
Deux petits mots sur la Ladies Périgord qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps. Sur la Dordogne.
Ah oui, alors là, c'est un grand moment. La Périgord Ladies, on avait un plateau exceptionnel cette année. Et donc, les cinq dernières années, quand on regarde les trois dernières vainqueurs, je remonte à 2024 avec celle qui a été championne olympique, Grace Brown, l'Australienne qui avait remporté l'épreuve. Mais l'an dernier, on avait une totale inconnue. Ça faisait un an qu'elle faisait du vélo, mesdames et messieurs. Un an qu'elle faisait du vélo. Elle a gagné les Périgord Ladies. Personne ne la connaissait. Paula Blassi. Elle fait cinquième du Tour de France cette année. Vous avez la réponse. C'est une grande championne. Bon, cette année, c'est Eva Van Agete qui a gagné. C'est une Hollandaise de la FDJ. Elle a pas fait le Tour de France cette année parce qu'elle revenait de blessure et donc, voilà. Mais, c'est une amoureuse de Périgord parce qu'elle venait quand elle était gamine. C'est une Hollandaise. Mais quand elle était gamine, elle venait avec ses parents en Dordogne. Et donc, elle voulait absolument faire cette course. Et en plus, elle l'a remportée. Donc voilà, voilà la belle histoire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Allez.
votre magazine de proximité, chaque mercredi à 19h. Autour de Michel, Christine, Carole, Maxime ou Didier, des invités vous apportent informations locales et conseils pratiques au travers des activités d'une association, d'un professionnel, d'une collectivité ou d'un service de proximité. Vous souhaitez communiquer sur votre actualité ? Participez à l'émission en envoyant votre demande à melimelo@radiopac.fr. Le rendez-vous des forces vives de la région, c'est dans Méli-Mélo, une émission proposée par Gabi Martin, le mercredi dès 19h sur Radio Pâques, Tube Info, en podcast sur radiopâques.fr.
Bonsoir Gabi, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Carole.
Ça va Gabi ?
Oui.
Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir.
Ben, j'espère, oui.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude. Tous les mercredis, on a plaisir de se voir.
On se dit toujours la même chose, mais c'est ça
qui m'a... Pourvu que ça dure.
J'espère longtemps Gabi, hein. Oui. Très longtemps. Il était une fois, chers auditeurs, un petit village du Limousin, des histoires, des personnages hauts en couleur, des souvenirs d'enfance et tout un patrimoine que l'on n'a surtout pas envie de laisser dormir dans les livres d'histoire. Ce samedi 15 août, le Chalard va justement faire revivre ces histoires, mais pas seulement les plus anciennes. Cette année, direction les années 50 et 60 avec une balade comptée, des personnages en costume, des jeux traditionnels, une exposition, un repas champêtre, des souvenirs racontés par un enfant du pays et évidemment pour terminer la journée en beauté, un bal populaire. Et pour vous raconter cette quatrième édition des 1000 histoires du Chalard, nous recevons Jean-Claude Lassens, président de l'association de sauvegarde du site Chalard Pérolier. Bonsoir monsieur Jean-Claude.
Bonsoir madame.
Jean-Claude, cette fête en est déjà, cet événement en est déjà à sa quatrième édition. Qu'est-ce qui a donné naissance à ces 1000 histoires du Chalard et qu'est-ce qui fait selon vous le succès ?
Alors, d'abord, on a pour but dans notre association d'entretenir le patrimoine, parce qu'on a un remarquable et très curieux cimetière aux moines, et on entretient les tombes, et c'est pas facile, parce que c'est des tombes en granit qui sont sculptées avec les outils d'autrefois du moine menuisier, etc., etc. Donc, il faut les entretenir, mais avec soin, parce que il faut pas faire d'érosion pour pas abîmer les sculptures.
Et oui.
Alors, on a aussi l'église dont on s'occupe, et puis l'abbaye.
Ça fait du travail, tout ça.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a une rue remarquable qui descend dans le bas du bourg et qui rejoint l'église, qu'on appelle tout simplement la rue de l'église, et qui est très caractéristique.
Vous êtes combien dans cette association, Jean-Claude ?
Eh bien, écoutez, on est une quarantaine de bénévoles et c'est le cœur de l'association parce qu'on a peut-être un nombre réduit, parce qu'il faut savoir que le Chalard, c'est 300 habitants seulement.
Oui.
Donc, on a qu'une quarantaine de bénévoles, mais seulement des gens très motivés pour leur bourg.
Le nom de cette association, de cette manifestation, pardon, les 1000 histoires du Chalard. Pourquoi ces 1000 histoires et quel lien faites-vous avec l'histoire, du Chalard, de cette commune, de ce site ?
Eh bien, si vous voulez, à 17h30, on propose une balade comptée, les 1000 histoires du Chalard, qui vous feront voyager dans les années 50 et 60. Ensuite, nous proposons un moment de convivialité avec des grands jeux qui sont mis à disposition. On met en place également une petite exposition hommage au Chalard, c'est-à-dire les vieilles photos du Chalard,
oui.
les personnalités qui ont marqué l'histoire du Chalard, dont il y a un maire du Chalard qui s'appelle Jacques Boutard et qui a été maire de Saint-Thierry, député maire de Saint-Thierry, et que toute la population admire.
Cette année, il y a un léger changement de décor, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Puisque la fête va se dérouler dans le haut du village, autour de la salle des fêtes et de ses abords. Pourquoi avoir choisi cet endroit particulièrement et qu'est-ce que ça va permettre de faire découvrir aux visiteurs ?
Eh bien, comme vous l'avez justement rappelé, ça fait la quatrième année qu'on organise ces manifestations aux environs du 15 août. Et on le faisait toujours dans le bas du bourg, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de bâtiments caractéristiques, l'église romane, le cimetière aux moines et l'abbaye, et la rue de l'église. Et on a voulu changer parce que on a voulu rassembler l'ensemble du Chalard, qui n'est pas une partie haute et une partie basse du bourg, coupée par la départementale.
D'accord.
C'est-à-dire que notre village, qui est tout petit, il est quand même séparé par une départementale. Donc, si vous voulez, on va dans la partie haute pour aussi gâter les gens de la partie haute et parler de cette partie du bourg qui nous est chère également.
On ne délaisse personne. évidemment.
Exactement, exactement.
Alors le grand rendez-vous, vous l'avez dit Jean-Claude, de cette journée du 15 août, c'est à 17h30 avec une balade comptée consacrée aux années 50 et 60. Vous allez nous emmener dans un chalard d'après-guerre avec deux enfants, une guérisseuse appelée Anna Desbordes et toute une galerie de personnages. Comment avez-vous imaginé cette histoire et qu'est-ce que le public va vivre pendant cette balade comptée?
Je vais essayer de le compter, Bien sûr, c'est une balade que l'on propose en collaboration avec une association de conteurs qui s'appelle les Passeurs d'Histoire de Limoges. Uh-huh. On va évoquer les années d'après-guerre. Il faut imaginer deux enfants qui s'endorment au pied d'un arbre un après-midi d'été et qui vont faire un rêve éveillé. Un personnage bien connu des Pérouillés va venir dans leur rêverie. Il s'agit d'Anna Desbordes. Uh-huh. Anna Desbordes, qui était une célèbre guérisseuse, va les emmener dans les rues du village, à la rencontre des personnages de cette époque. Lavandière, garde champêtre, aubergiste, un couple de postiers. Ils vont échanger avec les enfants sur leur métier, et en plus, ils vont raconter des contes du Limousin. On va donc avoir une dizaine de personnes qui vont intervenir tout au long de cette balade, en habits d'époque, et j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui s'implique, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, pour faire en sorte que ce soit un vrai succès. Ça va être vraiment très très sympa. Il y a de l'humour, de l'émotion, et on va apprendre plein de choses sur l'histoire contemporaine du chalard, mais plutôt en années 50, et sur le haut du village, qui est moins connu. On a beaucoup traité de l'histoire plus ancienne dans nos précédentes éditions, mais voilà, cette année, c'est le thème d'après-guerre qui est à l'honneur, et cette partie du chalard.
Et oui, ça mobilise énormément de...
Oui, c'est du boulot.
De personnes, tout ça, Jean-Claude.
Mais on y met beaucoup de cœur.
Ah ben oui, mais ça se sent.
C'est pour ça qu'on vient vous voir, pour avoir une publicité intéressante.
Ça fait plaisir de vous recevoir dans Méli-Mélo.
On a été très bien reçus par votre compagnon.
Par mon papy de cœur, je le dis. Je suis fière d'être dans Méli-Mélo avec Gabi.
Il est très
Gabi.
Gentil.
Ah, il est génial.
C'est vrai.
On l'aime.
C'est vrai.
On l'aime tellement fort.
Je reconnais.
Alors après cette plongée dans les années 50, Jean-Claude, place au jeu, puisque vous allez installer une dizaine de jeux traditionnels grâce notamment auprès de la mairie de Saint-Thierry. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du passe-trappe, de la grenouille ou du remont de boule, ça vous parle ça, Gabi?
Pas trop.
C'est vrai?
Non, oui, non, je fais pas attention. Non.
Ah bon?
Non, j'étais un adepte des jeux vidéo, alors pas ça.
C'est un avance.
Ça le fait bondir, c'est bon.
Des jeux vidéo en bois, évidemment.
Évidemment.
Que va-t-il se passer ensuite?
Et la grenouille, vous avez parlé de la grenouille, c'est l'ancêtre du flipper.
D'accord. Ah. On fait sauter la grenouille.
Il y a le jeu du lancer d'anneau, le remonte-boule et le chaboule-tout. Très intéressant, le chaboule-tout.
On est vraiment plongé au cœur, mais jusqu'au bout, en fait.
Oui, puis on peut prendre l'apéritif tout en jouant.
Ah, très bien. Ça va en intéresser, hein, ça, je le sens.
Faudra amener votre ami Gabi.
Carrément.
Il y aura également une exposition, Jean-Claude.
Oui.
Hommage au chalard. Qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir?
C'est figure, une petite exposition d'une envergure pas très spectaculaire, mais sensible, qui va, je pense, créer l'émotion et rafraîchir la mémoire de certains habitants du chalard et des environs.
Oui, vous avez des photos d'époque.
On a des photos d'époque. On va évoquer des personnages qui ont marqué le village du chalard, notamment la guérisseuse.
Oui.
On avait une guérisseuse
célèbre. Qui a vraiment
célèbre.
Existé.
Oui. Le docteur Jacques Boutard, l'ancien député-maire de Saint-Thierry, qui a été maire du chalard. Et à quoi la commune doit beaucoup. Mais on a aussi... On a d'ailleurs reconstitué son bureau.
Ah, très bien.
On a reconstitué son bureau et on va l'évoquer dans ce cadre-là.
Alors, pour conclure ce bel événement, vous proposez un repas champêtre avec du fait maison au cœur de la vie locale.
Voilà, tout à fait.
Pendant le repas, vous accueillerez Michel Moirand, enfant du chalard, qui viendra raconter ses souvenirs d'enfance. Pourquoi était-il important pour vous de faire une place à cette mémoire orale du village pour histoire de patrimoine,
Michel Moirand,
évidemment.
Michel Moirand était maire de Périgueux. Il était maire de Périgueux. Et maintenant, il est écrivain. Il écrit des romans et je vous les conseille parce que c'est passionnant. Et il va évoquer devant nous les souvenirs d'enfance parce qu'il a été à l'école communale du Chalard.
Et oui.
Et donc il va évoquer toutes ces anecdotes qui ont marqué son enfance au Chalard.
On espère qu'il y aura du monde, dont des très jeunes, pour qu'il y ait cet échange intergénérationnel.
Vous savez, les très jeunes au Chalard, comme vous dites, il n'y en a pas beaucoup.
Mais ils vont venir d'ailleurs.
J'espère.
C'est l'été, chers auditeurs. Allez-y, allez au Chalard. Ils sont super accueillants, en plus, ces gens. C'est vrai, hein, Gabi ? On est toujours bien accueillis au Chalard.
Oui. Alors, pays des pères mouillés. On peut parler du repas.
Évidemment.
Hein, qui est à 20 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants.
Pour les moins de 12 ans.
Voilà.
Tout à fait.
Alors, au point de vue menu, on a l'apéritif. Ensuite, on a une pièce de bœuf.
D'accord.
Ensuite, on a un gratin de pommes de terre. Ensuite, on a du fromage. Et ensuite, on a des tartelettes aux noix arrosées de miel.
Ouh.
Ça devrait tenir la route.
Ça garde.
Et un prix modique de 20 euros.
Oui.
Mais c'est grâce à mon épouse qui a conçu ce menu.
Ah. Votre épouse qui est à vos côtés. Cher Jean-Claude, on ne l'entend pas. Elle
est silencieuse.
Là, mais tous les deux, vous êtes trop mignons. Je tenais quand même à le signaler.
Mais c'est gentil.
Oui, mais c'est vrai. C'est un peu votre garde du corps. Je vois le regard. Elle vérifie. Attention.
Elle rigole pas.
On est en sécurité dans le studio de Radio PAC. Ne vous inquiétez pas, Jean-Claude. Alors, après l'effort de manger et de... Non, il n'y a pas d'effort à manger. C'est pas vrai. On va quand même aller se dépenser un petit peu parce qu'on a un bal populaire, Jean-Claude.
Oui, on a un bal populaire, il va y avoir six musiciens, donc des accordéonistes qui vont reprendre des airs des années 50 jusqu'à nos jours.
D'accord.
Et on va danser une grande partie de la nuit.
Jusqu'au petit matin.
Jusqu'au petit matin.
Comme avant, voilà. À l'ancienne. C'est ce samedi 15 août au Chalard, balade comptée, qui commence à 17h30. Mis à part le repas, le bal est-il ouvert à tout le monde,
bien
gratuit?
Bien sûr, bien sûr. Il n'y a que le repas qui est payant.
Le repas est payant.
Et les boissons, bien entendu.
Uniquement le repas est payant, chers auditeurs. Dès le début de la journée, quand vous irez à partir de 17h30 plutôt, en fin de journée, tout ça c'est gratuit. La balade comptée, l'exposition, les jeux, le bal, il n'y a que le repas. Vous pouvez réserver, attention, sortez vos cahiers et vos stylos au 06 12 52 42 66 ou 06 32 04 52 29. Est-ce qu'on a fait le tour de la question, Jean-Claude?
Oui, je voudrais simplement rajouter que, en plus de Marie qui a bien participé à l'organisation, à la rédaction du menu, il y a tous les bénévoles qui s'investissent tous les jours avec beaucoup de cœur, beaucoup d'élan et beaucoup de générosité.
Et sans eux, sans bénévoles,
c'est pas possible.
Ce serait très difficile en tout cas de l'organiser. Ta 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 ta. Vous n'y échapperez pas, Jean-Claude. Mais n'ayez pas peur. Il n'y a pas de siège éjectable. Tout va très bien. On est en sécurité. Je termine toujours ces petits moments radiophoniques par une petite question avec deux choix.
Oui.
Vous êtes OK?
Bien sûr.
J'essaye d'être le plus. De coller le plus au thème, hein, évidemment. Donc là. Si vous deviez ajouter une histoire à conter à votre répertoire, laquelle choisiriez-vous? Attention, c'est très recherché, monsieur Jean-Claude. Hein,
oui, c'est vrai.
Réponse A. L'histoire du Péroulier, qui aurait découvert, sous l'église, un passage secret menant directement chez Gabi Martins. Sauf qu'il y a un hic. Il n'avait pas prévu que le passage était occupé par une famille de canards qui exigeait un droit de passage pour laisser les humains passer. Ou réponse B. Attention, celle-là, elle est pas mal aussi. L'histoire d'Anna Desbordes, la célèbre guérisseuse dont vous avez parlé, Jean-Claude, qui aurait un jour tellement bien soigné un villageois qu'il se serait mis à courir à l'envers dans toutes les rues du Chalard pendant 3 jours. Et depuis, les habitants et les touristes auraient conservé une tradition, faire au moins une fois le tour du village à reculons, parce qu'il paraît que ça porte bonheur.
Bon, ben, je retiendrai la solution Anna Desbordes, parce qu'elle a aussi bien marqué le pays.
Oui.
Parce qu'il faut savoir que de l'Europe entière, on venait par car au Chalard pour se faire soigner.
Pour se faire guérir.
Et c'est très difficile d'obtenir avec elle un rendez-vous.
Anna
Desbordes. Parce qu'elle est très prise, Anna Desbordes.
Et oui, et qui est donc enterrée au Chalard.
Chalard, dans le cimetière.
Qui est dans le cimetière, comme
moderne.
Vous l'avez dit, sa réputation a largement dépassé les frontières.
Bien sûr.
Et ça, c'est une histoire très inspirante aussi. Un personnage...
Rocambolesque.
Oui, tout à fait, qui a bien existé. On avait avec nous, pour cette quatrième édition des 1000 histoires du Chalard, Jean-Claude Lassens, accompagné de Marie, qui était à côté de lui, qui le regardait, qui le protégeait, président de l'association de sauvegarde du site Chalard Pérouliers. Merci d'être venu dans Méli-Mélo.
Mais merci pour votre gentillesse.
C'était une très belle rencontre.
Et on va faire un petit coucou à Xavier, gentil. Xavier qui a fait le lien pour en faire venir Jean-Claude jusqu'à la radio.
Ah, oui. Mais Xavier, c'est mon bras droit. Il a pris le travail, il travaille encore en ce moment, parce qu'il fait le déroulé de l'exposition et puis le déroulé de la promenade. Il travaille énormément.
C'est vrai.
Et je ne l'avais pas...
C'est vrai.
Ouais. C'est un travail d'équipe.
Oui, c'est ça.
Ce sont des belles rencontres aussi.
C'est un artiste, Xavier.
Oui.
Ah, d'accord.
C'est un artiste.
On ne connaît pas toutes ses facettes.
On n'a pas encore vu toutes ses facettes.
Vous ne le connaissez pas, Xavier ?
Si. Si.
C'est coquin, hein.
À bientôt, Jean-Claude. Merci. À bientôt, Marie. Merci d'être venu dans Méli-Mélo.
Voilà, donc, ainsi se termine le Méli-Mélo du jeudi 13 août. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura encore quelques invités. Après, peut-être on s'accordera une petite pause estivale. Et on reprendra pour la rentrée vers le 10 ou 13 septembre. On verra. Voilà, donc bonne soirée à tous et puis à très bientôt sur les antennes de Radio Pâques.